nzamba
nzambira samirana
Merci de choisir la radio Inzamba Agathe Kakawe. C'est le moment du journal en français, dont voici d'abord les principaux titres. Une personne a été tuée à la machette la nuit d'hier sur la colline Rukago dans la province de Kayanza. Les criminels ne sont pas encore connus. Et puis la situation sur le respect des droits de l'homme est inquiétante au Burundi. Le constat est fait par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi. Cela au moment où le monde entier célèbre la journée internationale de l'enfant africain. La direction de l'autorité maritime du Burundi demande à tout pêcheur par bateau de payer une somme d'argent de 105 dollars américains pour le renforcement de la sécurité du lac Tanganyika. Un montant extrêmement exorbitant selon le LUCOM, l'Observatoire de la lutte contre la corruption. Voilà pour le sommaire. À la présentation, Valérie Mucho. Bienvenue à toutes et à tous.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Insécurité pour commencer ce journal. Une personne a été tuée par machette la nuit dernière sur la colline Lukago située dans la commune Garombo de la province Kayanza. Les auteurs du crime ne sont pas encore connus, mais un suspect a été arrêté par la police pour des raisons d'enquête. Le point avec Delicia Kamikazi.
La victime est un homme âgé de 28 ans répondant au nom de Tshahai Fabi. Il était infirmier au centre de santé de Tchelezi, en commune Muhanga, province Kayanza. Selon les informations en provenance de la commune Garombo où s'est produit le drame, c'était vers 18h45 quand une moto en provenance de la commune Muhanga qui se dirigeait vers la commune Garombo est tombée dans une embuscade tendue par des inconnus. À bord de cette moto, il se trouvait deux clients, dont ce Tshahai Fabien et un militaire. Tshahai Fabien a été immédiatement attaqué à coups de machette par les malfaiteurs, puis il est mort sur le champ. Toutefois, les deux autres, à savoir le motard et le militaire, en sont sortis indemnes. Quand la police est arrivée sur le lieu du drame, les deux personnes ont été appréhendées pour des raisons d'enquête, selon les sources sur place. Les mêmes sources indiquent que le défunt a été tué alors qu'il venait de retirer de l'argent à la banque. Il n'y a pas longtemps, un ménage d'un certain Casimir de la colline Luzingati, en commune Garombo même, a été attaqué à la grenade. Une vieille femme de 60 ans et son petit-fils y ont laissé leur vie.
Cette autre brève sur l'insécurité, deux corps sans vie d'orpailleurs ont été retrouvés chez eux hier soir sur la colline de Nyamihana, en zone Rubona, dans la commune Mugina de la province Chibitoke, à l'ouest du Burundi. Les sources administratives affirment que les deux personnes auraient été empoisonnées. Au départ, ces orpailleurs étaient au nombre de trois, dont un s'en est tiré de justesse. Il a vite été emmené à l'hôpital où il a bénéficié de soins d'urgence. Les mêmes sources indiquent que la police est à l'œuvre pour mettre la main sur les présumés auteurs du crime et que des séances de sensibilisation ont commencé pour éviter que la population ne se fasse justice. Dans le chapitre des droits de l'homme, aucune avancée vers le respect des droits des enfants au Burundi. C'est un bilan négatif qui se présente au moment où le pays célèbre ce mercredi 16 juin la journée de l'enfant africain. C'est une situation qui inquiète la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, qui alerte le gouvernement sur ce qu'elle qualifie de bombe à retardement. On fait le point avec Josephine Jones Hunzimana.
À Bujumbura, la capitale économique, des enfants en situation de la rue sont nombreux dans différents quartiers de la commune Mukadza, au centre-ville et au quartier asiatique. Beaucoup parmi ces enfants sont tout le temps vigilants pour ne pas tomber dans les patrouilles de la police. Ils nous ont indiqué que leur vie de la rue est conditionnée par la pauvreté chez eux. Les conséquences sont énormes pour ces enfants. Ils consomment presque tous des stupéfiants. C'est une situation qui est connue de la CNDIH, Jacques Nshimirimana, qui est chargé des droits de l'enfant. Dans cette commission nationale des droits de l'homme, alerte sur cette situation qui qualifie de bombe à retardement.
La CNDIH, comme commission, va continuer à faire son plaidoyer, à rappeler aux autorités burundaises que la question des enfants en situation de rue est une question très cruciale, est une bombe à retardement, est une question qui doit être prise au sérieux par les autorités du pays et au plus haut niveau. Ces enfants aujourd'hui, ce sont des enfants enfants, mais demain ils vont grandir. Demain, s'ils deviennent des adultes de la rue, ils vont s'organiser, ils vont former une communauté de Burundais de la rue.
C'est un défi à faire face dans tous les pays. La ville de Bujumbura n'est pas isolée d'autres villes du pays. À Ngozi, comme à Gitega, la situation est aussi déplorable, mais difficile de relever les statistiques. Il faut rappeler que le ministère de la Solidarité et des Droits de l'Homme avait annoncé l'an dernier un projet du gouvernement de construire des maisons d'accueil pour ces enfants en situation de la rue. Un projet qui reste en tout cas dans les tiroirs du gouvernement.
Le nouveau procureur de la Cour pénale internationale, le Britannique Karim Khan, a prêté serment ce mercredi pour commencer officiellement ses fonctions. Il avait été élu procureur général de cette même cour en février à New York aux États-Unis. Gustave Nyonzima, un des avocats des victimes des crimes de la crise qu'a connu le Burundi en 2015, salue la venue de ce nouveau procureur et espère que les dossiers des victimes seront traités conformément à la loi. Écoutons Maître Gustave Nyonzima.
C'est un très grand avocat chevronné, spécialiste en droit international et également dans la défense des droits humains. Et avant de prendre son nouveau poste de procureur, Karim Khan était sous secrétaire des Nations Unies où il dirigeait une enquête sur les crimes commis par l'État islamique en Irak. Il a également été conseiller au bureau près le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il a été avocat de la défense de Jean-Pierre Bemba, de Charles Taylor, de Saïf al-Islam Kadhafi. Également, il pourra bénéficier du soutien de l'appui des États-Unis d'Amérique dans son administration, contrairement à Fatou Bensouda, qui avait été sanctionné par l'administration de Donald Trump. Donc, son expérience et son aura sur la scène internationale nous donnent une lueur d'espoir. Nous sommes très optimiste que les dossiers des victimes soumis devant le bureau du procureur pourront être traités avec célérité, professionnalisme et compétence. Son arrivée pourrait représenter la structuration de la Cour pénale internationale quant à la célérité du traitement des dossiers, aussi au professionnalisme avéré au niveau des enquêtes. Nous lui souhaitons bon succès. Et nous espérons que nous pourrons travailler de commun accord.
Inzamba.
La direction de l'autorité maritime du Burundi exige le paiement de $105 américains pour chaque bateau de pêche flottant sur le lac Tanganyika. Elle explique que l'argent collecté servira au renforcement de la sécurité dans le lac, une mesure qui n'est pas la bienvenue au sein des pêcheurs. Ils estiment que cette somme est exorbitante et indiquent qu'ils ne seront pas en mesure de s'acquitter de cette contribution avec la diminution du rendement dans les eaux du lac Tanganyika. D'autres excluent par ailleurs l'abandon de ce métier. C'est un reportage de Diane Nkurunziza.
La mesure de payer une somme de $105 américains a été annoncée ce mardi par Jacques Bigirimana, directeur général de l'autorité maritime. C'était lors d'une réunion avec les représentants des pêcheurs sur les plages de pêche de la Tour et Kabezi en province de Bujumbura. Jacques Bigirimana explique que la mesure est prise pour renforcer la sécurité dans le lac et lutter contre le vol et la fraude pratiquée dans le lac Tanganyika.
Discuter sur l'immatriculation des bateaux. L'argent que nous avons communiqué ici, c'est une contribution parce que la logistique sera nécessaire pour faire ce travail beaucoup coûteuse. Vous savez que les plaques sont coûteuses. Vous savez que les cartes roses seront achetées. Il y a d'autres équipements que nous avons envisagés qui seront achetés. Alors vous savez que le gouvernement n'a pas de moyens suffisants pour se procurer tous ces documents, tous ces plaques. Il faut que la population utilisateur contribue.
Certains des pêcheurs indiquent qu'ils ont été surpris par cette mesure qui s'ajoute à d'autres sommes d'argent qu'ils sont contraints de donner. Les $105 équivalent à peu près à 400 000 francs burundais. Cette somme d'argent s'ajoute à 10 000 francs burundais donnés par des pêcheurs pour achat d'imbage à la Fédération des pêcheurs et commerçants des poissons du Burundi. Imbage dont la validité est d'une année. Une somme de 15 600 donnée comme contribution trimestrielle trimestriel à l'INSS et une somme de 35 000 francs burundais donnée pour recevoir un gilet de sauvetage. Alors que le rendement de la pêche est sensiblement diminué, les prestataires du lac Tanganyika estiment qu'ils peuvent d'un moment à l'autre se rendre dans d'autres pays de la région, dont la Tanzanie et la République démocratique du Congo, pour la même activité. Selon eux, ce qui était important et urgent n'était pas la collecte des fonds, mais plutôt le développement du secteur pêche pour accroître le rendement.
Ce montant de 105 dollars américains exigé à chaque pêcheur pour financer leur sécurité dans les eaux du lac Tanganyika est aussi jugé exorbitant par l'Observatoire de la lutte contre la corruption au Burundi, OLUCOM. Gabriel Roussili, le président de cet observatoire, propose plutôt une somme allant de 10 000 à 15 000 francs burundais et il dit que ce montant devrait être payé en monnaie locale conformément à la constitution burundaise et non en devise américaine. Suivez Gabriel Roussili.
Nous pensons que cette décision a tardé d'être prise parce que identifier les bateaux qui circulent dans le lac Tanganyika, nous pensons que vraiment c'est une nécessité. Néanmoins, demander un montant de 105 dollars pour immatriculer chaque bateau, c'est un montant exorbitant parce que, comme vous le savez, avoir 105 dollars, c'est-à-dire plus de 300 000 francs bou, c'est une somme énorme. Pour l'ORICOM, il est plus qu'important que cette décision ne soit pas prise comme ça, parce que ce montant vraiment est un montant énorme. En plus de cela, demander aux Burundais de payer en devise dans leur propre pays, c'est contraire à la constitution burundaise et autres lois qui protègent la monnaie burundaise. Raison pour laquelle l'ORICOM demande à ce qu'un montant oscillant entre 10 000 et 15 000 soit demandé, mais ce montant doit aussi être payé en frambou.
Parlons éducation à présent. C'est l'inquiétude chez certains enseignants de la direction communale de l'enseignement à Kayokwe, en province Naro. Depuis quelques jours, les directeurs des établissements scolaires dans cette commune font circuler une fiche pour solliciter de l'argent en vue de soutenir la famille de l'ancien président burundais Pierre Nkurunziza. Cela pousse certains enseignants à se poser plusieurs questions au sujet de cette contribution, mais ils n'ont pas de réponse. Ces enseignants affirment qu'ils n'ont eu aucune explication ni de la part du directeur communal de l'enseignement de Kayokwe, ni de la part du directeur provincial de l'enseignement dans cette province de Naro. Les mêmes enseignants dénoncent des actes d'intimidation à l'endroit de ceux qui ne remplissent pas la fiche. Les précisions avec Trifine Kanewabo.
Cette fiche que les enseignants doivent remplir a pour titre « Contribution pour le soutien de la famille du président Pierre Nkurunziza ». Officiellement, la contribution n'est pas obligatoire, mais certains enseignants relèvent que des menaces sont proférées à l'endroit de récalcitrants.
On nous exige le soutien de 2 000 francs et plus. En coulisses, on menace celui qui ne contribuera pas, qu'il aura un problème avec les autorités scolaires communales, provinciales et même ministérielles.
Cela suscite l'inquiétude chez les enseignants qui ne sont pas convaincus de la nécessité de donner cette contribution.
Est-ce que la petite famille est vraiment dans le besoin d'être soutenue? Est-ce que la famille de l'ancien président est vraiment démunie plus que tous les Burundais? Ce qui nous inquiète, c'est qu'il doit y avoir l'identité du fonctionnaire, comme nom et prénom, matricule, montant et signature. Alors que ce n'est pas le document destiné à la fonction publique. Nous demandons l'arrêt immédiat de ces intimidations et de laisser les gens contribuer à volonté si ça vaut la peine.
Nous avons cherché à joindre par téléphone Omer Barandaguié, le directeur provincial de l'enseignement à Moaro, pour qu'il nous donne des éclaircissements sur cette contribution, mais il n'a pas décroché son portable. N'avons pas non plus pu avoir la réaction du directeur communal de l'enseignement à Kayokwe.
Les habitants du quartier Ngengabusoro craignent d'attraper des maladies des mains sales suite à la pénurie d'eau potable dans cette localité. Ils préfèrent utiliser les eaux insalubres de la rizière Kanyosha. Ils demandent au gouvernement de trouver une solution durable à cette situation. Le point avec Benny Axelakana.
Ces habitants du quartier Nyengabusoro indiquent que cette pénurie d'eau potable s'est fait remarquer depuis l'année dernière dans cette localité. Ils ajoutent qu'il y en a même ceux qui ont payé les compteurs à la régie des eaux, mais qui attendent toujours d'être servis. Ces habitants font savoir qu'ils sont contraints d'utiliser l'eau de la rivière Kanyosha, des eaux qui contiennent des saletés en provenance des ménages des quartiers de Musaga et Kanyosha. Ces habitants contactés par la radio Inzamba craignent d'attraper des maladies liées aux mains sales comme le choléra et d'autres. Ils ajoutent également que ce quartier ne possède qu'un robinet public, mais là encore, l'eau vient à compte-gouttes. Ce qui rend l'eau une denrée extrêmement chère, un bidon de 20 litres d'eau s'achète à 400 ou 500 francs burundais. Ces habitants redoutent également la propagation de la pandémie de Covid-19 étant donné qu'il leur est difficile de trouver de l'eau propre pour se laver les mains. Ils demandent au gouvernement d'apporter une solution rapide et durable à ce problème pour l'intérêt de la population. Dans ses explications, la régie des eaux avait indiqué que cette pénurie d'eau potable dans différents quartiers périphériques de la ville de Bujumbura est liée à l'extension de cette ville et que la société n'avait pas eu la capacité de renforcer ses installations en conséquence. La radio Inzamba n'a pas encore eu la réaction de l'administrateur de la commune Muha pour plus d'éclaircissements sur cette situation.
Inzamba.
Continuons ce journal avec cette brève. Le Conseil national de la communication a levé ce mercredi les sanctions prises contre la radio britannique BBC et le journal en ligne Ikiriho. Le CNC fait savoir que cette décision a été prise dans le cadre de la mise en application de l'appel du président de la République qui demandait à initier un dialogue entre cet organe de régulation et les médias sous sanction. Le CNC demande à ses organes de presse d'éviter de retomber dans les erreurs qui ont conduit aux sanctions contre eux. Et un mot de sport pour boucler ce journal. Après le premier match de l'Euro 2020 pour toutes les équipes engagées dans cette compétition, le constat est que les grandes équipes ont confirmé leur statut de favoris à l'exception de l'Allemagne et de l'Espagne. Pour les 12 premiers matchs, 28 buts ont été marqués. Le bilan de cette première partie avec Blaise Nijimbele.
Ce mardi, toutes les équipes qui ont pris part à cette 16e édition de la Coupe d'Europe de football avaient déjà joué un match. Le constat est que les grandes nations de football se sont bien comportées en gagnant les premiers matchs, à l'exception de l'Espagne tenue en échec par la Suède et de l'Allemagne battue par la France sur un but à zéro. La France n'a pas eu la tâche facile de même que l'Angleterre et les Pays-Bas, mais d'autres équipes se sont baladées. On citera la Belgique, l'Italie et le Portugal. Certaines équipes qui se cherchent encore au niveau européen ces derniers temps ont gagné leurs premiers matchs. Il s'agit de la Slovaquie, de l'Autriche, de la Finlande et de la République tchèque. Avec 3 points au compteur, ces équipes peuvent jouer les troubles faites. Pendant ces matchs de groupe, quand une équipe perd son premier match, le suivant devient souvent compliqué. Le fait de penser à une probable élimination, les joueurs se sentent une pression énorme, ce qui peut même engendrer des mauvais choix. Jusqu'à ce mardi, sur 12 matchs joués, 28 buts ont été marqués. En signant un doublé face à la Hongrie ce mardi, Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'histoire du championnat de l'Europe. Le Portugais totalise désormais 11 réalisations dans l'épreuve et devance désormais de 2 longueurs Michel Platini, auteur de 9 buts lors de l'Euro 1984. Ce mercredi, l'Italie croise le fer avec la Suisse. Si la Suisse perd, elle sera près de la porte de sortie et l'Italie aura validé son ticket pour les 8e de finale.
Voilà, c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour le travail abattu dans la collecte de toutes ces informations que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à la prochaine.